Chapitre 7 Météore et Scolastique. Lorsque le roi des détectives confiait une mission à son secrétaire, celui-ci, qu'on a pu le constater, nos lectrices et nos lecteurs, qui ont lu Le mystère du train bleu, Une maison hantée, Le crime d'un aviateur, Zapata, L'ogre amoureux, Le fantôme du père Lachaise, Condamné à mort, etc., etc. On peut se rendre compte avec quel zèle, quelle adresse celui-ci s'en acquittait. S'assimilant de plus en plus les méthodes de son maître, envers lequel il professait une admiration aussi profonde que sincère, Météore commençait toujours par établir un plan non pas rigide, mais au contraire susceptible de toutes les modifications que peuvent nécessiter les circonstances imprévues, tel qu'on en rencontre toujours au cours d'enquêtes policières. Il s'efforçait tout d'abord d'envisager la situation avec un sens absolu des réalités et interdisait rigoureusement à son imagination de donner sa mesure avant qu'il fût documenté exactement sur le terrain où il allait s'engager. En l'occurrence, il avait commencé par relire la sténographie de la conversation que son maître avait eu la veille avec M. Maurice Barrois. Puis, en quelques notes brèves et judicieuses, il avait résumé celle qu'il avait eue avec son patron. Tout cela, évidemment, avec un rapport très indirect avec le professeur Courtil. Cependant, Météore avait compris la nécessité pour lui d'être en pleine possession de tous les éléments qui avaient précédé les tractations du roi des détectives avec le savant. Et il s'était fait cette judicieuse réflexion, puisque le patron me demande de m'informer secrètement du passé de cet homme, de chercher à savoir pourquoi il y a un trou dans son existence et d'apprendre également ce que cet homme a fait pendant ce temps-là, mais donc qu'il n'est pas entièrement sûr de lui. Qui sait même s'il ne soupçonnerait pas d'être... Mais à peine cette idée avait-elle effleuré son esprit, que Météore immédiatement se disait « Mon ami, freinons vite, nous allons nous emballer, sans doute à faux, ce qui serait lamentable. » D'ailleurs, ainsi comme l'a toujours recommandé mon patron, je n'ai qu'à suivre ses directives, et je n'ai pas plus le droit de m'en écarter que de les dépasser. Je n'ai donc plus maintenant qu'à songer à la façon dont je vais m'y prendre pour pénétrer auprès de cette dame scolastique. D'après le peu que m'en a dit le patron, elle me fait tout l'effet d'un cerbère qui ne doit pas être facile à apprivoiser. Si encore elle était jeune et pas trop vaine, on pourrait essayer de lui faire un bon cours en se présentant à elle sous les traits d'un riche américain ou d'un galant aviateur. Mais il paraît, comme on dit vulgairement, qu'elle a plutôt gratté le fromage. Alors il va donc falloir aviser autrement. Avant de l'aborder, tuyautons-nous sur elle. Météore sortit, prit un taxi et se fit arrêter à l'entrée de la rue Bonaparte. Après avoir payé le chauffeur, il s'en fit directement au 37 de la rue Bonaparte et se promena de long en large devant l'entrée de l'immeuble. Il ne tarda pas à en voir sortir un panier à provisions à la main, une vieille femme qui ressemblait d'une façon décisive au portrait que l'on avait fait Chantecoq. Météore eut un sourire en biais, ce qui signifiait qu'il était content. Puis, sans désemparer, il pénétra dans la maison et demanda à la concierge, du ton le plus naturel du monde, « Madame, pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, à quel étage demeure le professeur Courtil ?»« Au deuxième, à droite. Je vous remercie, madame, » dit Météore. Et il allait s'éloigner lorsque la préposée au cordon, qui semblait d'ailleurs une fort aimable femme, lui dit « Oh, inutile de vous déranger, monsieur, il n'y a personne, c'est le professeur Courtil. Le professeur est sorti depuis le début de l'après-midi et sa bonne vient de partir aux provisions. » Je vous remercie beaucoup, madame, répliqua Météor. Vous êtes vraiment bien aimable. Mais dites-moi, la bonne de monsieur Courtil ne va peut-être pas tarder à rentrer. Oh, vous, je vous conseille pas de l'attendre, car son absence peut être assez longue. Ah, vraiment? Oui, tous les jours à cette heure-ci, après avoir fait ses courses, elle se rend à Saint-Sulpice, où elle reste au moins 1 heure à prier. Et sans que Météore eût besoin de demander à son interlocutrice la moindre explication, elle continua avec une volubilité et une abondance qui montraient qu'elle était douée du don de la parole et qu'elle était sans cesse prête à en user. Oh, madame Scolastique est plus que pieuse, elle est bigote. Moi, j'ai pas beaucoup de croyances, mais j'ai pour principe de respecter celles des autres. Je n'empêche personne d'aller à la messe et je ne veux pas qu'on me force à y assister. Oh, mon mari est comme moi, ça veut dire qu'on n'est pas des méchants gens. Madame complimentait Météore, désireux d'achever de se mettre dans les bonnes grâces de la concierge. Il me suffit de vous voir et de vous entendre pour être certain que vous êtes la bonté même. À ce compliment si direct, la concierge bondit de plaisir, car elle n'était pas inaccessible à la flatterie. Et tout de suite elle reprit, donnant libre cours à sa faconde, qui pourtant n'avait rien de méridional. Madame Scolastique n'est pas une mauvaise personne, loin de là. C'est bon pour elle, il y a doute que les curés qui comptent, sans doute parce qu'elle a un fils prêtre. À Paris, questionnait insidieusement le disciple de Chantecoq. Oh, mais non, répliquait son interlocutrice. Il est vicaire en Bretagne, à Vannes. Voulez-vous que je vous montre son portrait sur une carte postale? C'est Madame Scolastique qui me l'a donné. Mais avec plaisir, déclarait Météore. La concierge, qui répondait au nom de Madame Dugazou, s'enfuit au fond de la pièce, ouvrit le tiroir d'une commode, s'empara du portrait en question et l'apporta au secrétaire du domaine directif, qui le regarda sans paraître y attacher d'ailleurs la moindre importance. Ah, fit-il, en rendant l'image à sa copropriétaire, il est vicaire à Vannes. Oui, déclara la concierge, à l'église de Saint-Paterne. Machinalement, Météore retourna la carte postale tout en disant: Oh, il a l'air très bien, il a une figure très sympathique. Il doit être bon, lui aussi. Et il parcourut les quelques lignes tracées sur le dos de la carte à l'adresse de Madame Scolastique. Chère maman, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort de mon père. Je m'en vais faire dire une messe à son intention. Je pense bien à toi, je t'envoie ma plus tendre pensée. Mon confrère et ami, l'abbé Vergeon, va aller à Paris dans un mois environ. Il ira te dire bonjour de ma part, car je lui ai tellement parlé de toi qu'il désire te connaître. Je t'envoie toute ma pensée filiale et la meilleure, ton fils, Pierre-Jean Méridec. Météore vérifia la date de la lettre et constata qu'il y avait 15 jours environ qu'elle avait dû partir à sa destination. Il rendit la carte postale à Madame Dugazou tout en lui disant: Évidemment, Madame Scolastique a peut-être une dévotion un peu exagérée, mais les témoignages que lui prodigue son fils semblent établir que c'est une très honnête et digne femme. Oh, ça, par exemple, j'en réponds, s'écria la concierge, et dévouée à son maître. Elle est à son service depuis plus de 30 ans. Oui, son mari était valet de chambre dans la maison. Il paraît que le professeur Courtil est beaucoup plus riche qu'il en a l'air. Oh, celui-là, voilà un phénomène, quel numéro! Il n'a pas l'air fier, et il est sûrement pas, puisqu'il veut s'occuper que des pauvres et qu'il soigne tout le monde à l'œil. Mais quand tu lui as arraché une parole, c'est comme si on demandait à la Tour Eiffel de se transformer en église du Sacré-Cœur. Des fois, il passe à côté de vous sans vous dire bonjour. Mais pas lui en vouloir, il est comme les savants. C'est-à-dire qu'il pense qu'à ce qu'il y a en lui. Moi aussi, je me fais même pas attention à ce qu'il raconte. Madame Scolastique, qui vient de temps en temps bavarder avec nous, car pour ainsi dire, il lui adresse jamais la parole, me disait il y a encore que c'est même pas la peine de lui faire de la bonne cuisine, s'il n'est pas capable de distinguer une mauvaise côtelette brûlée d'un bon beefsteak aux pommes. Bon, il mange pour manger, il boit pour boire. En dehors de ses malades, il ne reçoit personne. Il ne va nulle part, il est toujours plongé dans ses bouquins. Il faut vraiment avoir le dévouement chevillé dans le cœur pour rester au service d'un pareil maboule. Madame Dugazou allait continuer ses confidences, mais Météor jugea sans doute qu'il en avait suffisamment appris, car coupant net au torrent verbal de la préposée au cordon, il lui dit « Je vous remercie beaucoup, madame, de votre aimable accueil. Je reviendrai à un autre moment. » Après avoir salué poliment madame Dugazou, il se retira sans lui donner le temps d'entamer une nouvelle période. Vite, il prit un nouveau taxi et regagna l'avenue de Verzy. 20 minutes après, il en ressortait, revêtu d'un vêtement ecclésiastique qui lui donnait tout à fait les allures d'un jeune prêtre de province. Le camouflage était complet. Météor n'avait rien oublié, pas même son bréviaire. Le costume et ses différents accessoires, il les avait trouvés dans l'inépuisable répertoire à travestissement que possédait Sean Cock. En comédien né qu'il était, il avait ajouté l'allure, l'attitude, la physionomie indiscutable pour donner au personnage qu'il incarnait tout à fait l'aspect d'un authentique vicaire. Toujours en taxi, il regagna la rue Bonaparte et se vit arrêter devant le 37. En passant, il jeta un coup d'œil dans la loge de la concierge qui était occupée à préparer son repas du soir. Il jugea donc inutile de la déranger et il gravit promptement les 2 étages qui conduisaient à l'appartement du professeur. Il sonna discrètement. Rien ne répondit. « Diable !» se dit Météor. « Est-ce que par hasard, elle serait encore en extase devant l'autel de la Sainte Vierge ?» Cependant, il lui avait semblé entendre, comme il collait son oreille contre la porte, un bruit de savate que l'on traîne provenant de l'appartement. Il ressonna un peu plus fort. Rien encore. « Ah, mais que je suis bête !» se dit-il. « Mais j'avais complètement oublié que la mère scolastique était sourde. » Pour la 3e fois, il agita, mais violemment, la sonnette d'ailleurs fêlée. Cette fois, Scolastique entendit et s'en fit ouvrir. À la vue de ce jeune ecclésiastique, à la figure candide et aux manières onctueuses, la pauvre vieille joignit les mains comme si elle voyait apparaître le bon Dieu. Très satisfait de l'effet qu'il produisait sur celle dont il voulait tirer le maximum possible de renseignements, Météor, imperturbablement, se présentait en élevant la voix. « Je suis l'abbé Vergeon. » La figure de Scolastique s'épanouit. « Un abbé Vergeon !» répéta-t-elle en cessant de joindre les mains. « L'ami de mon fils. Oh, soyez le bienvenu, je vous attendais pas si tôt. » Et Météor expliquait. « Oh oui, chère madame, j'ai dû avancer mon voyage de quelques jours. Je suis arrivé ce matin et je n'ai pas voulu tarder davantage à vous apporter tous mes hommages, en même temps que les meilleures nouvelles de votre fils. « Que vous êtes bon !» s'écriait madame Scolastique. « Oh, je ne veux pas vous laisser ainsi dans l'antichambre. » Et tout en fermant la porte d'entrée qui était restée ouverte, elle fit « Voulez-vous venir avec moi au salon ?» Météor s'excusait. « Oh, je ne voudrais pas être opportun, ni déranger le professeur Courtil. » Scolastique répétait. « Monsieur le professeur n'est pas là, et d'après ce qu'il m'a dit, il ne rentrera pas tout de suite.
D'ailleurs, il sera très content de vous voir. Il est le parrain de mon garçon. Il l'aime beaucoup. Et comme vous êtes son confrère et son ami, je suis persuadé que bien qu'il ne soit pas très aimable avec le monde, il fera le meilleur accueil. » Et tout en lui ouvrant la porte du salon d'attente, elle ajouta « Entrez donc, monsieur l'abbé. Je vous en prie, faites comme chez vous. » Elle offrit un siège aux visiteurs et demeura debout. Mais avec beaucoup de déférence, le faux abbé Vergeon lui disait « Je vous en prie. » La vieille servante s'installa sur le bord d'une chaise. Et tout en considérant son interlocuteur avec un air attendri, elle fit « Bien heureuse de vous connaître. C'est très curieux, j'ai reçu ce matin une lettre assez longue de mon fils, il ne me parle pas du tout de votre arrivée. » Cette allégation, qui aurait pu en gêner beaucoup d'autres, ne parut nullement embarrasser l'élève de Shancock. Et sur le ton le plus naturel du monde, il fit « Bien, cela n'a rien d'extraordinaire, madame, car c'est qu'hier soir, vers 6 heures, que monsieur le curé de la cathédrale m'a déclaré que je partais pour Paris. Sans doute la lettre de mon confrère aurait-elle été écrite et mise à la poste par lui avant que monsieur le curé me communiquait sa décision. Ben oui, c'est cela, certainement. » Il y eut un léger silence. Météor en profita pour jeter autour de lui un rapide regard, et madame Scolastique reprit « Alors, il va bien, mon petit ?» Et tout de suite, elle ajouta « Oh, excusez-moi de l'appeler ainsi, mais c'est une habitude que j'ai prise depuis sa naissance, et je crois que si je vivais encore lorsqu'il aura 60 ans, je l'appellerai toujours mon petit. » Cette manifestation, si sincère d'amour maternel, ne pouvait causer à Météor une impression excellente, car il était doué d'un très bon cœur et souvent, il avait dû, au cours de ses enquêtes précédentes, lui imposer silence afin de ne pas se laisser aller à des pitiés dangereuses. D'ailleurs, sa conscience se rassura aussitôt. Il ne cherchait nullement à duper cette femme. Il voulait simplement obtenir de sa bouche les renseignements qui intéressaient son patron. Et tout en n'attirant aucun ennui à cette femme, accomplir son devoir professionnel sur la recherche de la vérité et dans l'intérêt même de la justice. Et redevenu entièrement maître de lui, il poursuivit. « Je comprends, madame, que vous soyez si tendrement attachée à votre fils. » Il le mérite entièrement, car c'est un des plus nobles cœurs qui m'ait été donné de rencontrer en ce monde. « N'est-ce pas ? » s'écria Scolastique ravi. Météor poursuivait. « Je n'ai pas besoin de vous dire combien de son côté il vous est tendrement attaché. Il n'a qu'un rêve, c'est d'être nommé curé le plus tôt possible, même dans une petite paroisse, afin de vous appeler près de lui. » Cela lui pèse beaucoup de se dire que vous êtes en place et que, surtout, vous n'êtes pas toujours très heureuse. « Oh, fils Scolastique, le professeur est très bon pour moi. Jamais il ne m'adresse aucun reproche, aucune réprimande. Je puis même dire qu'il me laisse faire tout ce que je veux. Mais le fait est qu'il ne parle pas beaucoup. Oui, c'est ce que m'a dit l'abbé Pierre. Mais il a dû vous dire aussi que ce n'était pas trop de sa faute. Il paraît que M. Courtil a été très malheureux. Votre fils m'a raconté aussi que c'était un très grand savant. Pour sûr, accentuait la servante. Je crois même qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui lui arrivent à la cheville. C'est pour cela que ses collègues lui ont fait tant de mistoufles. Et tout en soupirant, Scolastique ajouta « Oh, si jamais il y avait eu que cela, bon pourri, il aurait lutté, il aurait même triomphé. C'est un homme qui n'a pas seulement de la science en lui, mais aussi une volonté comme on n'en voit pas souvent. Pierre vous a peut-être dit. » Elle s'arrêta en une attitude interrogatrice. Adroitement, Météor reprenait. Votre fils, en effet, m'a fait allusion à certains chagrins intimes. Comme si elle éprouvait une satisfaction, ou plutôt un soulagement, à parler avec quelqu'un qu'elle jugeait capable de la comprendre, la vieille servante poursuivit. Vous ne pouvez vous imaginer ce que mon maître a souffert. À vous, je peux bien le dire. Quand vous êtes habitué à recevoir des confidences et à garder les secrets. Eh bien, il y en a un terrible dans la vie de monsieur le professeur. Je le connais. Mon fils le connaît aussi. Et tout en baissant la voix, en se penchant vers le faux abbé Vergeon, qui, les yeux baissés, la figure grave, réfléchie, avait tout à fait l'attitude d'un prêtre qui se prépare à entendre une confession, Scolastique, qui se serait fait hacher plutôt que de dire un mot à ce sujet, même à l'un de ses plus intimes amis, fit d'un air convaincu. À vous, je veux tout raconter, car un prêtre, c'est pas la même chose. Et au moins, vous serez un de plus à prier pour que ce pauvre homme n'ait pas une fin d'excellente existence trop malheureuse et qu'il finisse non pas par oublier son infortune, mais tout au moins par s'en consoler en cessant d'être un mécréant pour devenir un bon chrétien. Parlez, madame, invitait le faux vicaire avec un air de componction admirable. Et Scolastique développa. Monsieur le professeur Courtil avait épousé dans le temps à Nancy une jeune femme très riche et très jolie. Cela avait été un mariage, non par intérêt, mais d'inclination. Tant qu'ils vécurent tous deux dans cette ville où j'étais à leur service, ainsi que mon pauvre défunt mari, le ménage alla à merveille, et lorsqu'ils vinrent se fixer à Paris, je m'aperçus, au bout d'un certain temps, que les choses allaient moins bien. Oh, pas du côté de monsieur, qui était aux petits soins pour madame, mais plutôt du côté de madame, qui était toujours sortie en visite, en promenade, et qui ne s'occupait plus de son intérieur. D'abord, monsieur ne dit rien, mais il était facile de s'apercevoir qu'il souffrait beaucoup. Et bientôt, des discussions éclatèrent entre eux. J'avais eu l'habitude d'écouter aux portes, d'abord parce que je suis discrète, et puis j'ai toujours été un peu dure d'oreille. Mais ça, j'en suis sûr, il n'était pas d'accord. Mon pauvre défunt mari, qui lui aussi était valet de chambre et n'entendait plus clair que moi, me disait que monsieur empêchait à madame de sortir trop souvent toute seule, de ne pas lui dire où elle allait, et surtout de refuser de se promener avec lui. Bon, ça dura bien 3 ou 4 ans. Lorsqu'un soir, en rentrant, il trouva madame étendue dans sa chambre au pied de son lit. Il nous appela vite. Nous crûmes tout d'abord qu'elle était qu'évanouie, mais elle était morte, bien morte, puisque 3 jours après, on l'enterrait à Nancy, dans le tombeau de sa famille. Monsieur manifesta un chagrin tellement violent que pendant 15 jours, nous crûmes qu'il allait mourir. Mais sa robuste constitution reprit le dessus. Alors il décida qu'il irait vivre en province et qu'il se retirait entièrement du monde. Alors je lui offris de l'emmener dans notre pays, en Bretagne, où nous lui ferions la vie très douce. Il n'avait pas une énorme fortune, car, bien que sa famille l'ait institué par testament son légataire universel, il tint à restituer à la famille de la défunte toute la grosse dot qu'il avait reçue. Et comme il avait vendu quelques brevets, quelques inventions à des grosses maisons de produits pharmaceutiques, il n'était pas dans la gêne. Je ne veux pas compter sa bourse, mais j'ai idée qu'il doit avoir environ 1 000 francs de rente. Et comme il dépense, pour ainsi dire, rien pour son usage personnel, je suis bien sûr qu'il met de l'argent de côté et qu'il en donne aux malheureux, ce qui est plus probable. Car sous ses apparences froides, glaciales, mais il est la bonté même. Alors enfin, nous partîmes avec lui dans notre pays à Rosporden, où il loua une maison avec un grand jardin. Il fit construire une espèce d'atelier qu'il appelait son laboratoire. Là, il s'enfermait depuis 9 heures du matin jusqu'à midi et 1 heure de l'après-midi, jusqu'à 7 heures du soir. Il travaillait, pour oublier, bien sûr. Mais je crois qu'il n'y est pas arrivé, car des fois, je l'ai surpris en train de s'essuyer les yeux, comme s'il venait de pleurer et qu'il voulait nous cacher ses larmes. Cela a duré des années jusqu'au jour, cela 4 ans, où monsieur le professeur est venu s'installer à Paris dans cet appartement. 1 heure après, je perdais mon pauvre homme. Je suis resté toute seule avec mon pastron. Il n'y a plus que moi au monde, et pour 2 millions, je ne voudrais pas l'abandonner. C'est très beau de votre part, répondit le faux abbé Bergeron. Je ne puis, madame, que vous féliciter de votre dévouement, car, surtout depuis la mort de votre pauvre mari, la vie n'a pas dû être pour vous très agréable. Oh, j'ai mon fils pour me consoler. Je ne le vois pas très souvent, mais je pense à lui sans cesse. Il m'écrit une si belle lettre qu'il me semble que je l'entends parler. Je lui réponds de mon mieux et nous causons ainsi à distance. D'ailleurs, pour rien au monde, je ne voudrais jamais laisser seul, monsieur le professeur. J'ai la consolation d'avoir mon fils pendant toutes ses vacances qu'il vient passer près de moi. Et c'est toujours ça. D'un bout de l'un et à l'autre, je vis dans l'espoir qu'il va revenir. Cela m'empêche de m'ennuyer, quand je suis bien seul ici. Oui, le fait est que vous ne devez pas avoir beaucoup de monde. Non, dehors des clients, il ne vient jamais personne. D'ailleurs, c'était absolument la même chose quand nous étions à l'Ospenden. Jamais monsieur n'adressait la parole au monde. Jamais il ne sortait. Il se contentait de se promener dans un jardin quand il faisait beau. Bien des fois, mon mari et moi, nous lui demandions s'il n'avait pas envie d'aller faire un tour à la campagne jusqu'à la mer. Et nous répondait non en secouant tristement la tête. Alors nous n'osions pas insister, parce que quand nous lui parlions de cela, il était encore plus triste qu'auparavant. La vérité est que monsieur le professeur ne s'est jamais consolé de la mort de madame, et qu'il ne s'en consolera jamais. Sans doute Météor avait-il appris tout ce qu'il voulait savoir, car il se leva et dit « Madame, je vous demande pardon de vous avoir retenu si longtemps. » Scolastique déclarait « Oh, je suis très satisfaite, au contraire, que vous ayez venu me rendre visite. » Cela m'a permis de parler de mon fils avec vous. Et comme vous le verrez certainement plus vite que moi, vous serez bien aimable de lui dire, monsieur l'abbé, que je me porte bien et que je pense toujours à lui. Madame, la commission sera faite, répondait Météor. Et il serra avec respect la main que lui tendait la vieille servante, qui de son côté le conduisit jusqu'à la porte, tout en lui renouvelant ses recommandations à l'égard de son fils. Météor regagna la rue, sauta dans un taxi et se fit reconduire à l'allée de Vergy, au domicile de Shancock. Mais le roi des détectives n'était pas encore rentré chez lui. Météor en profita pour se déshabiller, se décamoufler et reprendre son visage et son costume habituel, et il attendit le retour de son patron. À 8 heures, le grand limier n'avait pas encore reparu. Météor commença à en concevoir quelque inquiétude. Il s'en fit trouver Pierre Gautret et lui demanda si celui-ci n'avait pas reçu, dans l'après-midi, quelque communication de son maître, l'avisant qu'il ne dînerait pas ou qu'il serait en retard. Le valet de chambre expliqua que non, mais qu'il n'avait pas lieu de se tourmenter. À 8 heures 30, Shancock n'était toujours pas là. Un soupçon terrible naquit soudain dans l'esprit de Météor, soupçon qui se traduisit par ces paroles prononcées à mi-voix. « Pourvu que le tueur de femmes n'ai pas appris que le patron s'est mis à sa poursuite et qu'il n'ait pas réussi à lui faire une piqûre mortelle. Il cherchait à se rassurer en se disant « Oh oui, si un pareil malheur était arrivé, on le saurait déjà. » Soudain, une voix joyeuse lança tout près de lui. « Mais oui, on le saurait, mon brave petit !» Météore tressaillit d'allégresse. Son patron venait de pénétrer dans le studio, et s'approchant de son secrétaire, il fit en lui mettant amicalement la main sur l'épaule. « Oh ça, mais est-ce que tu te figures que par hasard, je suis plus capable de me défendre ?»« Oh si, patron !» riposta énergiquement Météore. Jamais vous n'avez été aussi en forme. Seulement, voilà, j'ai tellement d'affection pour vous que quand nous sommes séparés, mon imagination bat la breloque et que je me figure toujours un tas de choses. Tu as tort, mon cher garçon, répliquait le grand limier. Tu dois savoir pourtant que je suis un homme de précaution, que je ne m'embarque jamais à la légère. La crainte que tu as eue, j'ai eu moi aussi, à l'heure qu'il est. Je me suis arrangé pour être à l'abri de toute piqûre, même d'abeille. Oui, je t'expliquerai ça tout à l'heure, car il est nécessaire que tu sois aussi préservé que moi-même. Mon patron, vous pensez toujours à tout. Chantecoq allègrement déclara. Mais je crois qu'il serait temps de nous mettre à table, car le fricot de Marie-Jeanne doit en avoir assez d'attendre. Après dîner, nous reviendrons ici. Tu me raconteras le résultat de ton enquête et je te mettrai ensuite au courant de tout ce que j'ai fait cet après-midi. Chantecoq appuya sur un bouton d'une sonnerie électrique qui correspondait directement à la cuisine. C'était le signal convenu pour prévenir le cordon bleu que l'heure des agapes avait sonné. Chantecoq et son secrétaire se rendirent à table et firent honneur à l'excellent consommé, à l'omelette aux franches de viande froide et à la salade qui leur furent servies. Ils ne servent pour ainsi rien de la croûte aux fruits qu'on leur avait apportée au dessert. Pendant ce repas, Chantecoq ne fit en rien allusion à l'affaire en cours. Météore en diagnostiqua qu'il était très satisfait des résultats obtenus et il s'en réjouit lui-même. La dernière bouchée avalée, Chantecoq regagna son studio avec son collaborateur et s'installant sur un fauteuil, il alluma tranquillement sa pipe et dit à Météore « Allô, tu as la parole !» Avec une fidélité toute sténographique, le disciple de Chantecoq fit à ce dernier le récit exact, complet et détaillé de son entrevue avec la vieille scolastique. Généralement, lorsqu'il avait terminé, son patron lui demandait « Qu'est-ce que tu en conclus ?» Cette fois, le grand policier privé, qu'il avait écouté avec une attention des plus soutenues, garda un silence absolu. Très ennuyé, Météore se demandait « Est-ce que par hasard, j'aurais loupé la commande? Est-ce que j'aurais mal accompli ma mission? Le patron n'a pas l'air content du tout. » Non, Météore se trompait, car tout à coup, Chantecoq se levait. « Eh bien, maintenant, je suis fixé sur bien des points obscurs qui m'ennuyaient un peu. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est bon, cela va être très dur, très très dur même. Je me demande comment je vais le prendre en flagrant délit. Car il doit se tenir sur ses gardes, enfin, nous verrons. » Et tout en se levant, il ajouta « Maintenant, mon petit Météore, à mon tour de te raconter ce que j'ai fait. Comme tu es appelé à jouer un rôle important dans cette affaire, il est indispensable que tu sois tenu au courant de tout. » Les yeux de Météore brillèrent d'une façon intense. Le fait est que les dernières paroles de son patron l'avaient d'autant plus plongé dans l'allégresse qu'elles étaient la preuve indiscutable que moins que jamais le roi des détectives lui marchandait sa confiance. Chantecoq reprit. « Oui, bien, ce matin, Je me suis rendu chez la baronne Normoy, une des dernières victimes du tueur de femmes. J'ai réussi à la voir sur son lit de mort, et bien que j'eusse l'impression, ou plutôt l'intuition, que j'avais un cadavre en face de moi, je n'ai pas hésité un seul instant à mander le professeur Courtil. Celui-ci, ainsi qu'il me l'avait promis, s'est empressé d'accourir à mon appel. Lui aussi m'a tout de suite déclaré qu'il avait la même conviction que moi. Néanmoins, il s'est livré sur la baronne Normoy à la même expérience que sur Marie-Louise Barrois. Malheureusement, elle n'a pas réagi. La pauvre femme était bien morte. Alors de là, nous nous sommes rendus successivement chez les quatre autres femmes qui avaient succombé le même soir dans le fameux dancing des Champs-Élysées, et nous avons constaté qu'il était impossible de les rappeler à la vie. Toutes ces démarches nous ont demandé beaucoup de temps. J'ai dû reconduire en voiture chez lui le professeur Courtil, et voilà pourquoi je suis rentré si tard. Maintenant, je serais curieux de savoir quelle déduction tu tires de ces faits nouveaux, dont je suis sûr la gravité ne t'aura pas échappé. Mais, patron, je vous avoue franchement que je préférerais que vous me disiez votre opinion là-dessus plutôt que de vous formuler la mienne. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de dire des bêtises. Qu'est-ce que tu en sais ? Tu peux au contraire, par tes réflexions, attirer mon attention sur des points que je n'aurais pas encore étudiés. Et puis comment jugerais-je de tes progrès si de temps en temps je ne te fais pas passer un petit examen ? Ah oui, ça, patron, vous avez absolument raison. Et je n'ai plus le droit de me faire tirer l'oreille. Ce que je pense, oh, c'est bien simple. C'est qu'ainsi que vous l'avez déjà deviné, le tueur de femmes aura été prévenu que vous aviez fait ressusciter une de ses victimes par le professeur Courtil et que, dans ces conditions, il aura jugé inutile de compliquer leur supplice en les faisant enterrer vivantes et qu'il aura jugé préférable de les expédier instantanément dans l'éternité. Jusqu'ici, reprenait Chantecoq, nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, allez, continue. Mais patron, vous me voyez très embarrassé. Maintenant, je trouve rien à vous dire, je nage, faudrait que je réfléchisse. Chantecoq, en souriant, demandait. Tu n'as pas été surpris que le tueur de femmes ait été aussi rapidement mis au courant de la résurrection de Madame Marie-Louise Barrois ? Oui, mais c'était justement, patron, ce que j'étais en train de me dire. En effet, il s'est à peine écouté quelques heures entre l'attentat dont Madame Barrois a failli être victime et ceux qui se sont produits au dancing de l'avenue des Champs-Élysées. Bien, approuvait le grand limier. Et après ? Après, dame patron, oh, voilà que je m'embrouille encore. Cependant, il y a quelque chose qui me trouble. Et certainement, c'est une question que vous avez dû vous poser vous-même. Comment le tueur de femmes peut-il bien savoir que les femmes qu'il frappe ont trompé leur mari ? Évidemment, concédait Chantecoq. C'est un point très curieux et très troublant, et qui tiendrait à prouver que notre bandit mystérieux à de nombreux informateurs, et pourtant, j'hésite à le croire, mon flair me dit que ce gredin-là travaille seul. D'ailleurs, comme tu le disais si bien tout à l'heure, mon brave petit, inutile de nous embarrasser dans les fausses files. Le plus important n'est pas de savoir par quel moyen le tueur de femmes se documente sur la culpabilité de celle qu'il entend sacrifier. Tout cela, c'est lui seul qui nous le dira. L'important, c'est de savoir qui il est, et surtout d'avoir une preuve si évidente de sa culpabilité qu'il ne puisse pas échapper à la guillotine ou à la maison de santé. Criminel ou dément, il faut absolument lui interdire, dans le plus bref délai possible, les fonctions sinistres qu'il s'est attribuées. Patron, vous parlez d'or. Seulement voilà, c'est que je ne vois toujours pas comment le découvrir, le pincer. Mais il s'agit d'abord, riposta le détective, de procéder par déduction. Pour cela, il faudrait d'abord savoir si depuis ce matin 10 heures jusqu'à ce soir 9 heures, le tueur de femmes a fait d'autres victimes. Mais rien de plus facile, déclarait Météor. Vous n'avez qu'à téléphoner à votre ami M. Lérény, le nouveau directeur de la police judiciaire, et je suis sûr qu'il se fera un plaisir de vous renseigner. Mais j'y pensais, reprit le roi des détectives. Mais je ne voudrais pas que la police officielle apprît que je me mêle de cette histoire. Non, je préfère attendre demain matin la lecture des journaux, qui me renseigneront exactement à ce sujet. Ainsi que toujours, patron, vous avez raison, répliquait le jeune secrétaire. Et comme s'il éprouvait le besoin de se rafraîchir le cerveau, Shandcock dit à son élève, « Si nous allions dans la salle de billard, nous pourrions livrer à quelques séries de carambolages. Cela nous reposerait les ménages et nous dégourdirait les jambes. » « Avec plaisir, patron, acceptait l'excellent météor. » Mais à peine avait-il prononcé ces mots que l'on frappait à la porte. « Entrez !» fit Shandcock. Pierre Gautret apparut. Il apportait sur un plateau une carte qu'il présenta au grand limier. Celui-ci s'en empara et lut le nom tracé sur le bristol. « Oh, ça par exemple !» s'exclama-t-il, « elle est bien bonne !»« Oh, c'est le cas de le dire, ainsi que le proverbe. » Quand on parle du loup, on en voit la queue. Et se tournant vers Météor, il dit remettons notre partie de billard à un autre moment, car je vais recevoir mon excellent ami Lérény, qui vient de me faire passer sa carte. Ah, ça, c'est rigolo. Shandcock reprenait mais comme on ne sait jamais ce qui peut arriver, et bien que j'ai une confiance absolue dans la loyauté de ce cher directeur, je vais te prier de prendre ton poste d'observation habituel, de t'emparer de ton bloc-notes, de ton crayon, et de prendre en sténo toute la conversation qui va avoir lieu avec cet excellent fonctionnaire et moi. Entendu, patron, appuya le secrétaire. Et pivotant sur lui-même, Météor parut se volatiliser dans les airs. Shandcock ordonnait à Pierre Gautret « Faites entrer, monsieur Lérény !» Tandis que le valet de chambre s'en allait exécuter ses ordres, Shandcock murmura « Oh, je me doute, ou plutôt, je sais pourquoi ce cher ami vient me rendre visite. Il m'y croit m'étonner. Eh bien, je crois que c'est moi qui vais le surprendre encore davantage. En tout cas, s'il vient pour me demander des renseignements, je lui donnerai avec plaisir, mais je crois que c'est lui plutôt qui m'en fournira. »